France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
On lutte pour ne pas utiliser de semences hybrides. On ne veut pas perdre nos propres semences.
En Turquie, il n'est pas possible pour un petit agriculteur d'avoir un certificat pour la production de ses semences et semis. Ces activités sont gérées par des entreprises. Ceux qui contrôlent les semences contrôlent la nourriture. Et en faisant ça, ils contrôlent les pays.
Comme vous le savez, l'industrialisation massive qui a lieu partout dans le monde détruit l'agriculture traditionnelle et les agriculteurs. Les gens, les citoyens, ont vraiment du mal à avoir accès à de la nourriture saine.
Grand pays agricole, la Turquie est traversée par les mêmes questions que les pays européens. Comment garantir son autonomie alimentaire? Comment être compétitive tout en réduisant l'utilisation des pesticides et en consommant moins d'eau? Comment produire des aliments plus sains et préserver la biodiversité? Dans les années 1980, la Turquie a fait le choix d'un modèle productiviste. L'État s'est désengagé au profit du secteur privé et a favorisé les grosses exploitations industrielles. Un mouvement qui s'est poursuivi dans la perspective d'une adhésion à l'Union européenne. Dans le cadre de ce processus, la Turquie a d'ailleurs adopté en 2006 une loi sur les semences agricoles, interdisant la vente des semences locales et incitant les fermiers à utiliser les semences hybrides commerciales. Si la Turquie s'est depuis éloignée de l'Union européenne, le président Erdogan, préoccupé par ses objectifs de croissance, continue de promouvoir le modèle agro-industriel. Mais au niveau local, des initiatives fleurissent. Des citoyens expérimentent des pratiques plus écologiques, s'inspirant des méthodes traditionnelles paysannes. C'est le cas à Nilufer, dans le nord-ouest du pays. À rebours de la politique nationale, la mairie s'engage en faveur de l'agroécologie et encourage la préservation des semences paysannes. Agroécologie en Turquie, entre tradition et progrès, c'est un reportage signé Mélissande Brie. Bonjour Mélissande.
Bonjour Aurélie.
Vous allez donc nous emmener à Nilufer, dans la province de Bursa, au nord-ouest de la Turquie.
Oui, c'est ça. En fait, Nilufer est une grosse agglomération. Elle comptait plus de 530 000 habitants en 2022 et sa population continue d'augmenter d'année en année. C'est aussi une ville lourdement industrialisée. On s'y déplace beaucoup en voiture, sur de grands axes routiers, et ce n'est pas très étonnant quand on sait que la province de Bursa est un des principaux sites de production automobile en Turquie. Pourtant, depuis plusieurs années, la politique de Nilufer s'est orientée vers l'agroécologie et l'accès à une alimentation saine. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la vision assez systémique des problèmes et les solutions qui sont apportées à chaque niveau de la chaîne de production alimentaire. La mairie fait appel à beaucoup d'associations, de collectifs. Ils travaillent vraiment en réseau et essayent d'impliquer au maximum les citoyens et les citoyennes dans les prises de décision. C'est d'ailleurs ça qui fait leur force. Il y a même des projets très ambitieux en cours, comme la création d'un éco-village entier dans le quartier de Konak, qui devrait ouvrir ses portes l'année prochaine.
Alors nous avons aujourd'hui deux invités qui vont réagir à votre reportage. Bonjour Bediz Yılmaz.
Bonjour.
Vous êtes en direct d'Istanbul, vous êtes agricultrice urbaine dans des jardins partagés et vous coordonnez un réseau d'entraide et de développement d'agriculture urbaine qui s'appelle Fair Food Community. Et puis notre autre invité est en direct de Toulouse dans le studio de France Bleu Occitanie. Bonjour Éléonore Mahé.
Bonjour.
Ingénieur agronome, vous travaillez pour l'association Bio Ariège-Garonne et vous avez fait pendant un an un voyage à vélo autour des semences paysannes, voyage qui vous a notamment mené en Turquie, à Nilufer, où nous partons tout de suite.
Oups. Hello.
Hello, morning.
Morning.
Pendant tout mon séjour à Nilufer, je suis accompagnée par Laurine et Pierre-Luc. Ces deux apprentis paysans se sont lancés dans un tour du monde de l'agroécologie l'année dernière et finissent leur périple en Turquie. Ce matin, nous retrouvons Arja Atay. Cet ex-ingénieur agronome, devenu conseiller à la mairie de Nilufer, nous emmène dans les jardins d'Urunlu, un ancien village devenu un des 64 quartiers de la commune. Ces jardins d'un demi-hectare ont été ouverts en 2016 et servent à la production et à la conservation de semences paysannes.
Ce jardin appartient à la municipalité de Nilufer. Il y a des gens qui en prennent soin. Chaque année, on fait pousser 150 variétés de plantes.
Tous les ans, vous faites pousser les mêmes variétés ?
Non, des variétés différentes chaque année. Par exemple, on a 30 variétés de tomates, 6 variétés de courges, 20 de poivrons, etc. On établit un programme de rotation et on les fait pousser. On a aussi des aromates et des plantes médicinales. Ici, on fait des essais sur elles. Si les essais sont concluants, on les amène dans des espaces plus grands. Dans ces espaces, on n'utilise aucun pesticide, ça c'est sûr. On a un compost là-bas, et ici c'est notre librairie de semences.
Et alors ça, là-bas, c'est une serre pour planter des semis ?
Oui, deux d'entre elles seront recouvertes de plastique et en mars, on y sèmera des graines pour le programme de l'année prochaine.
Oui, c'est la petite pépinière.
Oui, oui, c'est ça.
C'est suffisant pour ici ?
Oui, j'ai besoin de 15 000 semis chaque année. 5 000 pour ici, 10 000 à donner aux gens, donc deux pépinières, c'est suffisant pour 15 000 semis.
Arja est le président d'une association appelée Ecoder. Fondée en 2002, l'association avait d'abord pour but d'éveiller les consciences sur l'agriculture biologique dans la région. En 2007, Ecoder noue un partenariat étroit avec la mairie de Nilufer et s'oriente vers la préservation et la distribution des semences paysannes. Ils ont d'abord commencé par collecter des semences locales auprès des villageois et des agriculteurs de la région, puis la production s'est étendue à des variétés du monde entier.
Et ces semences, d'où elles viennent à la base ?
De partout.
De partout ? De la part des paysans, des fermiers dans les montagnes ?
Même de Cuba. Des Philippines. De Bulgarie.
Donc en fait, les personnes qui préservent d'anciennes semences, elles te les envoient ?
Parfois oui, parfois. Quand on organise des événements de distribution de graines, des gens d'autres villes viennent ici avec leurs propres semences et on fait des échanges. Je peux obtenir des semences que je n'ai pas et je les essaie dans ce jardin. Si c'est OK en termes de climat et de sol, on va réussir à les faire pousser. Allons à l'intérieur là. Peut-être qu'ils ont du thé, je peux continuer à vous raconter toute l'histoire.
Look at this. A little carriage. Yeah.
Nous entrons dans une petite maison en bois pour découvrir une table où sont posées des boîtes de pétri bourrées de coton humide et autour de laquelle plusieurs personnes s'affairent.
So that. Donc il y a 3-4 personnes ici qui appartiennent à la municipalité.
Donc ils sont payés par la mairie.
Oui, c'est ça.
Et ça, c'est en emploi à plein temps ?
Oui, oui, c'est ça. On distribue au public les semences qui sont produites ici. À chaque fois, il faut qu'on vérifie la qualité des graines avant de les distribuer. Donc là, elle met 25 graines par boîte. Au total, ça fait 100 graines par variété. Elles vont germer. Si la germination est autour, par exemple, de 80-90%, c'est OK, il n'y a pas de problème. Mais si c'est en dessous de 50-60%, c'est problématique. Alors, on ne distribue pas les semences. On a besoin de connaître leur taux de germination. Voilà pourquoi on fait cette petite expérience. On perd des semences locales chaque année. Il y a, je crois, peut-être 20 ans, 30 ans, il y avait beaucoup de variétés de semences en Turquie. Mais les fermiers préfèrent toujours les semences hybrides parce qu'elles ont des rendements plus avantageux. C'est une des raisons pour lesquelles l'utilisation des semences hybrides augmente et les semences locales diminuent. On a perdu plein de variétés de semences dans toute la Turquie.
Les hybrides dont parle Arja sont des semences produites par des firmes agroalimentaires telles que Bayer Monsanto ou Corteva AgriScience. Conçues en partie en laboratoire, Ces variétés standardisées ne sont plus du tout soumises à la sélection naturelle et font chuter la diversité génétique des régions où elles sont cultivées. Gourmandes en ressources, sensibles aux maladies et aux aléas climatiques, elles sont pourtant au cœur de l'agriculture conventionnelle en Europe. Un autre problème majeur, si les rendements des hybrides sont exceptionnels la première année, ils chutent drastiquement l'année d'après, rendant les agriculteurs dépendants de semences qu'ils doivent racheter aux mêmes entreprises à chaque nouvelle saison.
Autre chose, le gouvernement a fait passer une loi sur les semences il y a peut-être 10 ans. Dans cette loi, il est dit que tu ne peux pas vendre de semences ou de semis sans certificat de vente. Mais en réalité, en Turquie, il n'est pas possible pour un petit agriculteur d'avoir un certificat pour la production de ses semences et semis.
C'est la loi 5553 ou Loi sur les semences, entrée en vigueur en novembre 2006 au nom de l'harmonisation européenne. La liste des régulations et des taxes à payer pour obtenir l'autorisation de vente est longue et les sanctions sont sévères. L'amende peut s'élever jusqu'à 10 millions de livres turcs, soit plus de 280 000 euros. En cas de récidive, c'est une interdiction de vente pendant 5 ans.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Que ces activités sont gérées par des entreprises. Ils s'en fichent des agriculteurs ou des petites fermes. Ce sera fait par des firmes agroalimentaires. Et il s'est passé la même chose partout dans le monde. En Amérique du Sud, en Europe, en Afrique, en Asie, pareil. Parce que ceux qui contrôlent les semences contrôlent la nourriture, et en faisant ça, ils contrôlent les pays. Si tu crées une faille, c'est très problématique pour eux. Ils ne veulent pas qu'on casse leur système. Mais des personnes et des associations comme la nôtre, qui veulent préserver la biodiversité, ont décidé de collecter des semences locales dans d'autres villes, d'autres villages, et de continuer à les faire vivre. Bien sûr, il faut en garder quelques-unes dans une librairie. Certains appellent ça des banques de semences, mais on n'aime pas les banques. Donc nous, on appelle ça une librairie de semences. On va aller voir ça maintenant.
Avec presque 800 variétés de graines traditionnelles, la librairie de semences de Nilüfer est la plus grosse au niveau local en Turquie. La pièce est petite, essentiellement composée d'étagères en bois. Sur chaque rayon, des bocaux remplis de graines sont soigneusement étiquetés.
Toutes les graines ont une histoire. Par exemple, celle-là, elle vient de Eskişehir, la ville où je suis né. J'ai trouvé ces graines. J'ai semé des tomates moi-même. J'en ai gardé certaines. J'en ai extrait des graines. Et je les ai essayées ici. C'est très bon.
Et sur les étiquettes ici, il y a des informations, c'est pourquoi ?
Il y a le nom générique, donc là, tomates, tomate. Fındık veut dire petit, comme des tomates cerises, mais un peu plus gros. Enfin, on indique d'où viennent les graines, si on le sait. Là, c'est la production de 2020.
Nilüfer organise depuis 2021 un festival d'échange de semences avec d'autres municipalités. 20 000 paquets de graines et 450 000 semis y sont distribués ou échangés. Comme il n'y a aucun transfert d'argent, le festival respecte la loi et l'engouement de la population est réel.
Chaque année, on distribue 30-35 variétés. Les gens vont là-bas, 500, parfois un millier de gens viennent, se mettent en rang et attendent pour recevoir leur paquet de semences. Ça veut dire qu'ils comptent bien l'utiliser, sinon tu n'attends pas une heure pour des graines.
L'implication des citoyens et citoyennes est essentielle pour sensibiliser à une agriculture et une alimentation plus saines. Un acteur politique important à ce niveau-là est le Mouktar, le maire de quartier, qui est élu tous les 5 ans. Nous rencontrons Melahat Unlu Shanal, Mouktar du quartier d'Altin Shehir, pour savoir ce qui est mis en place pour répondre aux besoins des citoyens.
Le Mouktar est le premier chaînon du processus démocratique et à mon avis, c'est le chaînon le plus vital. J'interagis en face à face avec les citoyens et je fais remonter leurs demandes aux personnes compétentes, notamment à la mairie. Être un Mouktar à Nilüfer est relativement simple. Nous vivons dans une ville sécularisée, plutôt pro-démocratie, pro-Europe, éduquée. C'est donc simple de travailler avec cette population-là. Par contre, les attentes des citoyens sont très élevées, parfois au niveau des exigences européennes. C'est un autre type de difficulté, mais j'aime beaucoup ce genre de défi.
Depuis quelques années, les citoyens d'Altin Shehir entretiennent des jardins partagés pour nourrir leurs familles. Une initiative de la municipalité qui s'inscrit dans la tradition des bostan, ou jardins potagers en turc. Lancé avec l'intention de reconnecter les citoyens à la terre, ce projet collectif reçoit un franc succès.
Je ne dirige pas le quartier toute seule, mais avec un comité de quartier de 45 membres. Quand j'ai appris que la mairie avait un projet de construction de jardins urbains, j'ai immédiatement commencé à chercher une terre publique pour organiser cela. Et la municipalité nous a aidés à tout mettre en place. On a commencé avec les membres du comité des voisins dans un premier temps, avec la mise en culture d'un total de 25 parcelles, juste pour voir. On a tout de suite reçu beaucoup de demandes de la part des citoyens. Alors, on a organisé une loterie et on a distribué les parcelles aux gagnants. Mais les demandes ont augmenté, alors on a divisé les parcelles en deux pour faire 50 parcelles. Ce n'est toujours pas suffisant, alors récemment, on a écrit à la municipalité en leur disant que l'on voulait doubler la surface des jardins.
Nous sortons des bureaux pour aller visiter les jardins, situés à quelques minutes à pied, en bord de route, juste en face d'une mosquée. Malgré l'hiver, les parcelles sont en bon état et beaucoup de légumes sont encore prêts à être cueillis.
Ok. Ils font de l'association partout, hein. Il y a des salades et des oignons et plein de choses mélangées, j'adore. Des épinards. Ça a coupé les petits brocolis, là. Oh. Viens voir des mini brocolis, des brocolis bébés.
C'est
trop chou.
Spinach.
Yeah, spinach. Mm-hmm.
Épinards. Yes. Là, t'as des fèves, des poireaux. Il y a plein de trucs. Leur salade et tout, même.
Maïdanos.
Ah, persil.
Persil. Mm-hmm.
Maïdanos.
Persil. Maïdanos. Maïdanos.
La roquette est incroyable.
Mon fou. Elle a le goût de moutarde.
Ouais.
C'est ouf.
Yağmur yıkamıştır. Arca abi.
Ah,
orti.
Orti.
Usurgan.
What you want to learn?
Qu'est-ce que vous voulez savoir?
En récapitulant, toute l'année, il y a des légumes qui poussent, même en hiver.
Yes. Yes.
Et alors pour les semences, quand ils en ont besoin, ils demandent au Mouktar ou à la municipalité?
Ils demandent au Mouktar, on lui envoie et elle les distribue. Parfois, ils trouvent leurs semis ailleurs, ça nous va. On précise qu'on préfère qu'ils plantent des variétés locales, pas des hybrides. Des fois, ils utilisent des hybrides, mais bon, s'ils n'utilisent aucun pesticide, ça va.
Arja nous explique qu'à chaque début de printemps, un atelier d'initiation au potager est organisé. Les participants et participantes reçoivent une liste de graines. Dessus, des indications sur la meilleure période pour les planter et des conseils pour entretenir leurs parcelles. Malgré tout, impossible de ne pas remarquer que les jardins sont au milieu d'un carrefour routier.
Et la pollution, du coup, avec les voitures, la ville?
On ne peut rien faire à ce niveau-là. Rien du tout.
Après, ces légumes ne sont pas pérennes. Ils ne restent pas longtemps, donc leur temps d'exposition à la pollution est court.
Oui, très court. Quand vous avez vos semis, vous les mettez en terre. Et après 2 mois ou 45 jours, vous pouvez les manger.
Les potagers urbains sont destinés à une consommation personnelle, familiale. Qu'en est-il des producteurs et productrices de la région ? Quelles semences utilisent-ils ? Pour quel type d'agriculture ? Aujourd'hui, il fait très froid. Dans le marché semi-couvert de Connac, les étals regorgent de fruits et de légumes de saison.
En plus, ils ont l'air bons, tous ces petits produits-là.
Ouais.
Les carottes, regarde la taille des
chocolats. Ouais, ils sont beaux, hein.
Du miel, des noix, des bocaux remplis d'olives s'entassent au pied des tables.
Ils sont leurs petits feux à l'intérieur.
Ouais, de fou. En même temps, ça caille, hein.
Des vendeurs se sont improvisés un poêle pour se réchauffer. Dessus, ils font cuire des châtaignes.
This is what we call a passage.
C'est ce qu'on appelle un marché. Ce marché est ouvert les mercredis. C'est pour les fermiers, pour les villageois.
En Turquie, les exploitations agricoles sont de petite taille et très morcelées. Leur surface moyenne est de 6 hectares, répartie sur plusieurs parcelles, et la région de Bursa ne fait pas exception. Difficile de trouver des espaces de vente abordables pour les petits producteurs. Un problème dont la mairie de Nilüfer a bien pris conscience.
La municipalité ne gagne aucune taxe sur les étals. Ils ont juste à nous prouver qu'ils sont fermiers, que c'est leur propre production. S'ils peuvent le prouver, c'est bon, on leur donne un espace. Dans les marchés conventionnels, le prix des espaces est très élevé, mais ici, ils ne paient rien du tout.
Et c'est juste pour des petits producteurs ?
Oui, oui, c'est ça.
Et alors d'autres districts ont des marchés sans aucune taxe, comme celui-là ?
Non, ils n'en ont pas. Seulement à Nilüfer. Au total, il y a 258 fermiers répartis sur nos 4 marchés fermiers.
Donc tous venant de Nilüfer.
De Bursa. Il y a 17 districts dans la région. Les producteurs peuvent venir de tous les districts.
Nous rencontrons Ibrahim, du village d'Altintash. Sa ferme se trouve à environ 500 mètres d'altitude, dans les hauteurs du district d'Oraneli, au sud de Nilüfer. En plus de s'occuper de quelques vaches, il fait pousser ses légumes sur 5 hectares de terre.
Tu préfères utiliser quel type de semences ?
On utilise des semences ancestrales à 100%.
Tu n'utilises pas d'hybride ? Pourquoi pas ?
On lutte pour ne pas utiliser de semences hybrides. On ne veut pas perdre nos propres semences. En fait, on a entendu dire que les hybrides sont très productifs. Mais nos clients veulent savoir quel type de semences on utilise. Et ils préfèrent toujours quand c'est des semences ancestrales.
Tu fais tes propres semences ou tu les achètes quelque part ?
Je les produis moi-même. C'est quelque chose dont j'ai hérité du grand-père de mon grand-père. D'abord, on collecte des légumes et on en extrait les graines et on les fait germer à chaque saison. On n'est pas des grands professionnels. On a de petites serres de la taille d'un poulailler. On fait pousser nos semis dedans et on les transplante dans les champs autour du 15 mars, en fonction de la météo. Puis chaque année, on recommence le cycle.
Donc tu n'achètes jamais de graines ailleurs ?
Des fois, ça arrive. Par exemple, on n'a pas de piment. Ça ne pousse pas bien chez nous. Du coup, on va en chercher chez le voisin. Il y a toujours quelqu'un qui en a.
La plupart des fermiers sur le marché utilisent des semences paysannes et pratiquent une agriculture dite « en conditions écologiques », avec leur propre fumier et très peu de pesticides. L'agriculture biologique en Turquie est très encadrée. La loi tente de suivre les normes européennes et le prix des certifications est élevé. Pour Hatice Öbelek, une fermière d'un village voisin, passer au bio n'a aucun intérêt.
Tu as déjà essayé l'agriculture biologique ?
On n'a jamais essayé. On fait déjà du biologique. Tout est déjà naturel.
On dit que les produits certifiés bio se vendent plus cher.
Non, non, ce n'est pas nécessaire. On prend grand soin de nos cultures. Même si vous ajoutez de l'engrais ou d'autres choses, si vous ne vous en occupez pas correctement, tout ce que vous ajoutez ne servira à rien. Si vous vous en occupez bien, la plante poussera. Et si vous ne le faites pas, elle ne poussera pas. Voilà, c'est tout.
Même son de cloche du côté d'Ibrahim.
Je n'ai aucune idée de la façon dont fonctionne l'agriculture biologique, de ses rendements ou de son goût. Je n'ai pas d'informations. Achetez-moi une tomate ou un poivron cet été. Goûtez-les. Je pense qu'ils ont meilleur goût que les produits les plus biologiques que vous produisez. Essayez.
C'est certain, je te crois.
Juste à côté de nous, un homme découpe une immense courge à la scie sauteuse. Alors que nous nous apprêtons à partir, une vieille dame nous fait signe d'approcher. Elle a un tout petit étal avec des poireaux, des choux, des œufs. C'est Sultan Yenge, une productrice bien connue sur le marché.
Elle collecte ses poireaux dans la nature. Combien est-ce que tu as de terres à cultiver ?
Non, aucune, rien à moi. Ce sont les villageois qui me prêtent une partie de la leur.
Grosso modo, ils te donnent quoi ? 1000, 2000 mètres carrés ?
Oui, pour faire pousser des légumes, j'ai 2000 mètres carrés de terrain.
Et comment vont les affaires ?
Oui, ça va bien. J'ai beaucoup de demandes pour toutes sortes de semis et de semences paysannes. Les gens en achètent aussi à la faculté de l'agriculture.
Production et distribution de semences, entretien de jardins urbains, soutien aux petits producteurs. La municipalité de Nilufer a décidé de promouvoir l'agroécologie, et ce à plusieurs niveaux. Pourquoi ces choix, à rebours de la politique nationale ? Quelles sont leurs principales difficultés ? Nous arrivons devant la mairie en fin d'après-midi. C'est un immense bâtiment gris, tout en longueur, situé sur la place Cumhuriyet. Hassan Karadayi, à la tête des relations internationales, nous accueille chaleureusement. Dans le hall d'attente, un grand portrait d'Atatürk, le héros national, se dresse à gauche de la porte qui donne sur le bureau du maire. De l'autre côté, un drapeau de l'Europe avec un épée liseré doré est suspendu.
Oui, c'est le drapeau d'honneur de la part du Conseil de l'Europe.
Décerné à Nilufer en décembre 2017, ce drapeau est une distinction donnée chaque année à 8 villes qui prouvent leur engagement envers les valeurs européennes d'éducation, de culture, de sport et de solidarité internationale.
Donc vous allez vous installer ici. Le maire s'assoit là. Vous voulez du thé ? Du café ? Oui, sans thé, il n'y a pas d'entretien.
Turgay Erdem appartient au Parti républicain du peuple, le CHP, le principal parti d'opposition au gouvernement. Après avoir passé plus de 10 ans dans l'administration de Nilufer en tant que vice-maire, il a été élu en 2019 et compte se représenter aux élections municipales qui auront lieu fin mars.
Ici, nous attachons beaucoup d'importance à l'agriculture biologique et écologique. Nous sommes très proches du centre-ville de Bursa, la partie centrale de la province. Nous avons beaucoup de zones industrielles dans l'agglomération, mais nous avons aussi un grand potentiel pour l'agriculture. Il y a 19 000 hectares de terres arables dans tout Nilufer.
En 2018, Nilufer a créé une coopérative appelée Nilcop, qui gère une partie des 100 hectares de terres appartenant à la municipalité. Composée de 75 membres, dont 60% sont des agriculteurs, la coopérative utilise ses terres publiques pour la production de fruits et légumes. Les produits seront ensuite transformés et distribués dans des points de vente autour de la ville.
Grâce à notre coopérative alimentaire, nous avons d'abord mis l'accent sur l'agriculture sans pesticides, l'agriculture écologique. Nous utilisons des semences traditionnelles, celles de nos ancêtres. Nous avons commencé notre travail avec des analyses du sol pour voir ce que nous pouvions y faire pousser. Maintenant, avec les laboratoires, nos agriculteurs savent quels produits sont les mieux adaptés. On leur donne les analyses de l'eau et du sol. Comme vous le savez, l'industrialisation massive qui a lieu partout dans le monde détruit l'agriculture traditionnelle et les agriculteurs. Les gens, les citoyens, ont vraiment du mal à avoir accès à de la nourriture saine. Principalement proche des centres-villes, des centres d'affaires, les agriculteurs abandonnent leurs terres parce qu'ils n'arrivent pas à faire de bénéfices. Ils vendent, louent leurs terres à des entreprises et quittent leur travail de producteurs agricoles.
Dans les années 80, l'État turc a engagé un virage néolibéral brutal. La part relative de l'agriculture dans le PIB est passée de 35% en 1970 à 5,8% en 2018, avec une politique agricole qui favorise les compagnies privées et les grosses exploitations industrielles. Aujourd'hui, l'agroécologie locale est loin d'être une priorité pour le gouvernement du président Erdogan, plutôt orienté vers l'import-export.
Ils ne nous mettent pas activement de bâton dans les roues, mais la politique du gouvernement est un obstacle majeur. Disons qu'ils ne sont pas contre nous, mais un petit peu quand même. Pourquoi ? Les efforts autour de l'agriculture écologique et biologique sont majoritairement soutenus par les gouvernements d'Europe de l'Ouest, comme en France, aux Pays-Bas, en Allemagne. Ils fournissent des données scientifiques, éduquent sur ces sujets-là, créent des coopératives pour soutenir l'agriculture écologique. À Nilüfer, nous devons fournir ces efforts à la place du gouvernement.
Ce qui nous manque, c'est les subventions. Les gouvernements européens donnent beaucoup de subventions aux agriculteurs, surtout pour développer le bio ou l'agriculture écologique. Dans notre pays, les subventions promises ne sont pas distribuées. Peut-être un quart de l'argent est investi au bon endroit, mais le reste, on ne sait pas où ça va.
En 2020, Nilüfer a reçu 370 000 euros dans le cadre du projet européen Fuzili, qui vise à soutenir les systèmes alimentaires durables. Parmi les 11 villes participant au programme, Nilüfer est la seule située en dehors de l'Europe. Pour Arca Atay, cette singularité est une force.
Ce n'est pas très commun en Turquie, mais on est fiers d'être les premiers à faire ce genre de choses. Les autres peuvent nous suivre, il n'y a aucun problème. On a construit les librairies de semences et 3 ou 4 municipalités ont fait la même chose. On a commencé la coopérative et les autres municipalités nous ont suivis. C'est très simple pour eux parce qu'on aime partager le savoir, on aime partager notre expérience. Certaines personnes pensent que ce n'est pas une bonne stratégie, mais nous on pense que si. Si tu me demandes quelque chose, je vais te répondre, te donner les informations sans aucune hésitation, et tu pourras aller plus vite. Tu n'auras pas à attendre pendant 2 ans, 3 ans, parce que je te donne la méthodologie, je te donne la recette. Maintenant, il te suffit de cuisiner.
Agroécologie en Turquie, entre tradition et progrès, c'était un reportage de Mélisse Onbry avec Annie Bro à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Nous retrouvons nos invités, Bediz Yelmaz, agricultrice urbaine à Istanbul, et l'ingénieur agronome Éléonore Mahé. Ça vous rappelle des souvenirs, Éléonore Mahé ? Qu'est-ce qui, vous avez le plus intéressé pendant votre voyage à vélo dans cette démarche de la municipalité de Nilüfer où vous vous êtes rendue, vous aussi ?
Je dirais que déjà, c'était une démarche très complète et en plus portée par une municipalité, ce qui n'était pas vraiment ce que j'avais vu le long de mon voyage. Alors il y a d'autres municipalités qui soutiennent de différentes manières, aussi bien en France que dans d'autres pays comme l'Italie, mais c'est pas très commun. Et comme ça a été décrit dans le reportage, il y a vraiment différentes manières de soutenir et du coup d'une démarche assez complète. Donc vraiment ça m'avait assez étonnée et étonnée positivement.
Bédiz Yelmaz, le reportage évoque les bostans, ces jardins partagés. Alors, ça n'est pas qu'une activité de loisir, ça permet vraiment de nourrir les gens.
Oui, tout à fait. Au fait, en Turquie, c'est une tradition qui vient de l'époque ottomane. Et c'est des jardins, petits ou grands, dans toute la ville. Et malheureusement, avec l'urbanisation, dans le temps, les bostans, les jardins, les maraîchers ont diminué. Mais il en reste encore, notamment au long des murailles. Et aussi, des bostans restent comme celui dans lequel je travaille. C'est un jardin qui appartenait à une mosquée. Donc, c'est au milieu de la ville, gardé par une famille. Et moi, je leur aide. Mais aussi, il y a d'autres types de bostans comme Nilufer, la municipalité de Nilufer a fait.
Ouais. D'une certaine manière, à vous entendre, on se dit qu'entretenir ces jardins potagers, c'est aussi une forme de résistance à l'urbanisation.
Bon, traditionnellement ou historiquement, c'était un moyen économique pour les gens. C'était une activité économique. Mais de plus en plus, comme ça diminue dans les villes, un autre type de jardinage ou de maraîchage est apparu. Et maintenant, comme les municipalités commencent à soutenir les différents types de jardins comme ça, des bostans. C'est une autre chose parce que les terrains maintenant sont beaucoup plus petits. C'est comme on a entendu dans le reportage, c'est pas une activité économique, mais c'est une activité pour la famille, pour obtenir une alimentation, produire ses propres légumes. Mais avant, c'était une activité économique. Donc, nous, on essaie de mettre l'accent sur cette différence et dire que garder les grands jardins, des grands bostans au milieu de la ville, c'est une résistance à l'urbanisation, mais aussi un moyen de faire la ville résistante elle-même. Contre les difficultés économiques ou la sécheresse ou les tremblements de terre, par exemple. Voilà.
Mais si je comprends bien, donc la production est relativement modeste aujourd'hui à Istanbul.
Et oui, au milieu, dans le centre-ville, oui. Malheureusement, parce que Istanbul, vous connaissez, c'est une très grande ville et très peuplée. Et les appartements, les bâtiments sont partout. Là où on produit, par exemple, c'est un endroit de la ville très très dense. Et si c'était pas un bostan appartenant à une mosquée, ça aurait été détruit, c'est sûr. Donc c'est beaucoup de plus en plus détruit les jardins collectifs ou non. Mais on doit militer pour ça et je suis vraiment une admiratrice de la municipalité de Nilufer parce qu'on n'a pas d'autre choix que de produire, en tant que les villes, les grandes villes, on n'a pas d'autre choix que de produire nos légumes dans le local. Dans le proche, dans la proximité, je veux dire, et au milieu de la ville aussi, et inciter les gens à produire eux-mêmes, les informer, les former, apprendre aux enfants dans les écoles, Et aussi intégrer ça avec les composts, les moyens de compost, ça doit devenir une façon de vivre.
Alors justement, vous organisez des ateliers hein, pour initier les habitants à l'agriculture urbaine. Comment ça se passe ?
Oui, on organise des petites formations comme ça, des ateliers de compost ou de maraîchage aussi, et aussi des échanges de semences. Des activités autour des semences, des visites des producteurs et autour d'Istanbul, pas seulement dans le milieu de la ville, mais autour. Et il y a beaucoup de gens qui se sont intéressés à ça, notamment après le Covid. Les gens ont vraiment... Une ouverture d'esprit pour l'écologie, je veux dire, pour l'écologie et pour la production de leurs légumes, soit dans les balcons, soit dans des petits terrains.
Et vous parliez des semences, est-ce que vous plantez principalement des semences locales ?
Pas toujours, mais quand on en trouve, oui. Parce que c'est, comme on voit dans M. Arja, comme il précise, il a précisé dans le reportage, et les semences, on ne peut pas les garder tout le temps. On doit les produire pour avoir, pour les garder, pour les faire vivre. Mais donc, comme je suis dans un jardin qui n'appartient pas à la municipalité et qui appartient, il y a une famille qui garde, qui produit dans ce jardin, mais ils produisent pour gagner de l'argent. Donc, on a besoin de grandes quantités de semences et mais d'un côté, on vend les légumes, mais d'autre côté, nous, on essaie de garder les semences. Donc, il y a les deux en même temps.
Alors, Éléonore Mahé, ces semences hybrides qui sont si décriées, sont-elles vraiment si problématiques ? Parce qu'elles ont tout de même des atouts, notamment si on veut produire des volumes importants.
Oui, en gros, l'industrie semencière a créé un grand nombre de semences à partir des années 50. C'est à partir de ces années-là que l'industrie semencière s'est créée. Elle était dans un contexte particulier à l'époque pour, de sortie de Seconde Guerre mondiale. Il fallait nourrir les gens. Donc, tout n'est pas à jeter. Et effectivement, elles peuvent avoir des hauts rendements. Elles vont vraiment répondre à des spécificités et derrière tout s'est adapté, en fait, aussi autour de ces semences. Et on a tout le système agricole industriel que l'on connaît en France et dans d'autres pays que l'on peut voir en se baladant dans les campagnes. Néanmoins, ces semences-là, plusieurs choses ont été évoquées lors du reportage. Il y a notamment le fait que pour pouvoir en avoir, il faille les acheter. Et donc, c'est un poste de dépense important pour les agriculteurs. Et comme on l'expliquait tout à l'heure, un hybride F1 n'est pas stérile. On peut le replanter d'année en année, mais par contre, ses propriétés et notamment, par exemple, le critère de rendement pour lequel on va les acheter parce qu'on est sûr d'avoir une bonne production. Bon, bien sûr, il y a des aléas climatiques, etc. Et ben, si on replante l'enfant de l'hybride F1 mère, on aura pas l'équivalent de la mère, entre guillemets. Et donc, ça fait qu'ils ne sont pas stériles, mais néanmoins, on va être, entre guillemets, obligé chaque année de racheter. Et du coup, en termes d'autonomie semencière et donc plus largement d'autonomie du producteur et plus largement d'autonomie alimentaire, aujourd'hui, c'est quand même un vrai sujet que les semences, et pas seulement les hybrides F1, hein, mais que ces semences qui sont les seules que l'on puisse acheter, soient finalement pas la propriété de tous, mais la propriété de quelques grandes industries semencières. Donc par opposition aux semences paysannes, semences traditionnelles, qui elles, entre guillemets, comme on le disait, sont cultivées au champ et vont être aussi un des grands enjeux, c'est qu'elles vont s'adapter, puisqu'elles ont été cultivées au champ depuis des générations, et elles vont s'adapter beaucoup plus. Un hybride F1 souvent a des caractéristiques particulières, mais pour qu'elles puissent bien pousser, cette semence, il va potentiellement falloir rajouter des produits type pesticides ou autres, parce que ça va pas bien lutter contre un ravageur, parce que ça va être très gourmand en eau, etc. Et donc les semences paysannes en face peuvent avoir régulièrement des rendements plus faibles, mais dans un contexte de changement climatique de plus en plus prenant, etc., vont peut-être finalement de plus en plus, et on a pu l'observer post-sécheresse 2022, parfois avoir des rendements quasiment équivalents, quand en face des produits issus de semences hybrides F1 vont eux avoir du mal à s'adapter et donc au final avoir des rendements qui vont eux-mêmes baisser.
Donc si je comprends bien, avec les semences paysannes, on risque d'y perdre à court terme, mais on peut y gagner à moyen et long terme.
Oui, et puis là j'évoquais le sujet du rendement, mais qui est un seul sujet dans pas mal d'avantages aussi, on a évoqué la biodiversité tout à l'heure, et ce qu'on appelle la biodiversité cultivée, c'est-à-dire que le fait de reprendre des semences paysannes, il y a une diversité absolument phénoménale de ces semences traditionnelles qui sont en fait ce qui existe dans le monde partout depuis des générations et des générations, et qui existent encore beaucoup, parce que il y a beaucoup de petits paysans partout dans le monde qui n'ont pas du tout les moyens justement d'aller s'acheter des semences hybrides F1 ou semences industrielles, qui continuent de faire perdurer tout ça. C'est quelque chose que nous, on a pour le coup beaucoup perdu justement dans nos pays qui sont très dans de l'agriculture majoritairement industrielle. Et donc voilà, au niveau de la biodiversité cultivée, c'est-à-dire la diversité et génétique et finalement phénotypique, c'est-à-dire quelles sont les variétés, les espèces que l'on a dans nos champs, les semences paysannes permettent de clairement augmenter cette biodiversité, et c'est un pas immense à faire. Et après, sur d'autres points d'un point de vue agronomique, il y a également le fait que, je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais ces semences paysannes traditionnelles sont souvent beaucoup plus rustiques, comme je disais, ancrées sur les territoires et donc aussi plus adaptables. Et on parle souvent de souveraineté alimentaire, de résilience. Eh ben, elles peuvent contribuer justement à aller vers plus de résilience des territoires. J'évoquais le sujet financier de l'achat des semences, mais finalement, elles sont aussi plus adaptables et donc nécessitent potentiellement moins d'intrants, qui eux aussi sont une source de dépenses pour l'agriculteur.
Pour autant, ça n'a pas tellement l'air d'être simple de revenir à ces semences paysannes. Il y a pas mal d'obstacles à surmonter.
Oui, tout à fait. Le premier, c'est que pour s'en procurer en tant qu'agriculteur, pour en acheter, ce n'est pas possible aujourd'hui.
C'est ça, il y a des lois qui l'interdisent.
Tout à fait. En fait, dans la loi aujourd'hui, on peut acheter des semences qui sont ce qu'on appelle inscrites au catalogue officiel. Donc c'est un catalogue officiel qui répertorie un grand nombre de semences, mais qui sont des semences qui garantissent des principes d'homogénéité, de stabilité, et j'oublie le dernier. C'est pas grave, ça va revenir. Mais donc du coup, typiquement, des semences paysannes ne peuvent y être inscrites puisque elles n'obtiendront jamais le critère d'homogénéité, par exemple. Au contraire, on est ravis qu'elles soient hétérogènes, qu'elles ne soient pas stables dans le temps, puisque justement, elles vont s'adapter. Et donc aujourd'hui, la réglementation, depuis 2020, elle permet à ce que des jardiniers amateurs puissent acheter à des artisans semenciers des semences qu'on appellera la paysanne. C'est possible, mais c'est pour des jardiniers amateurs, sur des petites quantités. Si je suis un céréalier et que j'ai besoin de me procurer des semences pour mettre dans mon champ de blé, mon futur champ de blé, aujourd'hui, je n'ai pas le droit. J'ai le droit à l'échange, mais du coup, c'est très limité. Et comme on le disait, au-delà de ça, tous les agriculteurs aujourd'hui ne vont pas se remettre à redevenir eux-mêmes semenciers. C'est une activité à part entière. Je pense qu'on connaît tous la difficulté du métier d'agriculteur, ou en tout cas la pluralité de compétences qu'il faut avoir aujourd'hui en tant qu'agriculteur. Et de redevenir semencier, c'est une compétence en plus à réacquérir. Donc le monde de demain, ce sera pas forcément chaque agriculteur, qu'il soit céréalier, maraîcher, maraîchère ou autre, redevient son propre semencier. Voilà, c'est une difficulté supplémentaire. Et donc, tant que, d'un point de vue réglementaire, on n'a pas la possibilité que ces semences paysannes puissent circuler librement avec de la vente sur les marchés, forcément, ça limitera le fait de pouvoir remettre des semences paysannes dans nos champs et finalement derrière dans nos assiettes.
Bédis Yilmaz, quel est le profil des personnes que vous voyez s'investir dans ce type de démarche plus respectueuse de la nature ?
Dans la ville ou dans les villages.
Alors vous, j'imagine que vous voyez en particulier un public urbain, évidemment.
Oui, oui.
Mais qui cherche à renouer avec la nature.
Oui, voilà. Mais il y a aussi une grande population qui s'oriente vers les villages pour avoir un jardin dans des petites villes ou villages, notamment dans la région égéenne, et produire eux-mêmes là-bas. Mais dans les villes, il y a des gens, surtout des gens qui ont une éco-anxiété et qui sont conscients de l'avenir, que l'avenir du monde est en danger et qu'il faut changer nos habitudes. Et donc, ils essaient d'apprendre, de changer leurs habitudes alimentaires, mais aussi le rapport avec la nature. Donc, avoir un bostan dans la ville, où ça peut être un petit jardin, des petits jardins potagers aussi, ça leur permet, notamment s'ils ont des petits-enfants, de renouer avec la nature, savoir un peu comment on cultive nos aliments, le métier des paysans, des agriculteurs, et les difficultés de ça. Donc, sans connaître les difficultés, et si un enfant voit la nourriture que sur le marché, le supermarché, il va pas avoir le respect ni aux paysans, ni à l'aliment. Donc, les gens qui sont conscients de ça essaient de changer leur approche et leurs habitudes quotidiennes.
Et est-ce que c'est vrai que ce mouvement est beaucoup porté par les femmes ?
Oui. Oui, oui, certainement, c'est comme ça, parce que les femmes sont plus conscientes et peut-être plus anxieuses, si le terme est bon, pour l'avenir. Pour l'avenir et aussi pour le présent. Comment on va nourrir nous-mêmes? Comment on va nourrir nos enfants? Et qu'est-ce que la terre va devenir? Et les femmes, je pense, elles sont plus ouvertes pour le changement. Parce qu'elles voient peut-être mieux les problèmes. Les problèmes écologiques, les problèmes de la vie moderne, entre guillemets, le modèle urbain dans lequel nous vivons actuellement, elles souffrent de ça et elles essaient de changer de ça.
Éléonore Mahé, est-ce que ça correspond à la perception que vous avez eue tout au long de votre voyage à vélo de l'Italie à la Géorgie ?
Que les femmes sont plus présentes et plus soutenantes de tout ce type de démarche.
Oui.
Pas
forcément.
Je réfléchis. Non, mais je dirais que j'ai vraiment vu des deux. Il faudrait que je fasse des statistiques des gens que j'ai rencontrés. Je dirais que sur l'aspect peut-être oui des jardins partagés ou qui en plus invite des enfants à venir justement dans les jardins partagés. Il est clairement oui, ça m'étonne pas qu'il puisse y avoir beaucoup plus de femmes aussi qui y soient, puisque les femmes sont quand même aussi beaucoup celles qui gardent plus les enfants que les hommes encore aujourd'hui et dans beaucoup de pays. Après, dans les acteurs finalement qui portaient les initiatives que j'ai pu rencontrer, que ce soit des associations, des agriculteurs, agricultrices, que ce soit des municipalités, que ce soit des chercheurs, que ce soit, tout un ensemble d'acteurs, des maisons de semences paysannes, etc. Finalement, j'avais un peu, aussi bien des hommes et des femmes. Je dirais que non, il peut y avoir vraiment tout le monde qui se... En tout cas, il faut que tout le monde se sente concerné par ce sujet. Et le sujet n'est pas du tout seulement, hein, encore une fois, le sujet des semences paysannes. C'est le sujet global de l'état de notre agriculture, de nos sols, de notre biodiversité aujourd'hui, pour qu'on puisse continuer de se nourrir bien demain.
Alors, vous avez quand même vu tout particulièrement comment s'effectuaient les collectes de semences dans un certain nombre de pays. Est-ce qu'il y avait des différences importantes d'un pays à l'autre, aussi bien dans les méthodes que dans l'état d'esprit ?
Je dirais que dans les méthodes, le fait de comment on sélectionne une semence, comment on la met au champ, on la sélectionne, on la collecte, etc. Ça, il y a des légères différences, mais on va dire que c'est de la technique et finalement c'est très léger. Donc ça, j'ai pas vu des grandes différences. Et puis en plus, dans certains cas, j'ai pas forcément pu le voir en sur le moment parce que c'était pas le bon moment de la saison. Mais de ce que l'on m'en décrivait à l'oral, ça avait pas l'air d'être forcément très très différent. Après, dans les démarches, dans la philosophie, ben finalement, oui, ça pouvait être différent parce que les acteurs qui étaient, justement, si je reviens au sujet des semences paysannes, dans la préservation, le partage de ces semences paysannes, le fait que voilà, la préservation de la biodiversité cultivée pouvait être différent. Dans certains cas, c'était un collectif de jardiniers amateurs avec potentiellement une association derrière. Dans d'autres cas, on avait la recherche qui avait créé tout un catalogue des semences et qui travaillait elle-même avec des associations. Dans d'autres cas, c'est vraiment beaucoup plus des agriculteurs ou des agriculteurs et des jardiniers, on peut avoir les municipalités. Donc finalement, dans le type d'acteurs, il pouvait y avoir finalement cette diversité, qui est d'autant plus riche quand il y a un grand nombre d'acteurs qui soutiennent cela. Et après, par contre, dans la philosophie, globalement, elle était partagée par tous. C'était sur ce sujet des semences, d'aller vers des semences libres de droit, de regagner en autonomie, de pouvoir développer, redévelopper la biodiversité cultivée, de pouvoir, du coup, derrière, directement avoir un impact plus positif d'un point de vue agronomique, mais également d'un point de vue social et sociétal, puisque, même au niveau de jardinier amateur, ça permet de reprendre un peu et le contact avec le sol, mais aussi même soi de reprendre son autonomie de la graine jusqu'à ce que l'on mange, si c'est une tomate par exemple.
Le pays où vous avez vu le réseau le plus organisé, c'était en Italie ?
Alors, je dirais que là où c'est le plus organisé aujourd'hui, c'est en Europe, puisque on a des réseaux aussi bien au niveau des pays, donc nationaux, qu'au niveau européen. Donc, j'ai commencé à la frontière italienne mon périple, mais aussi bien en Espagne avec Red de Semillas, en France avec le réseau Semences Paysannes, en Italie avec Rete Semi Rurali, en Allemagne, etc. Il y a des réseaux nationaux qui, à chaque fois, sont souvent des associations avec à l'intérieur des structures au niveau départementaux ou en tout cas plus locaux. Mais il y a aussi un réseau européen qui s'appelle Let's Liberate Diversity qui va également porter ces sujets. C'est souvent en lien aussi avec, d'un côté, plutôt la Confédération Paysanne en France qui a son homologue au niveau même mondial de la Via Campesina. Donc il y a aussi vraiment des relais, on va dire, plus politiques ou syndicalistes qui vont porter ces sujets. Alors le sujet des semences est un sujet parmi bien d'autres, bien sûr, mais sur ces sujets de souveraineté alimentaire, ça peut être porté jusqu'à des niveaux parfois mondiaux.
Merci Éléonore Mahé et merci à France Bleu Occitanie pour son accueil. Merci Bédiz Yılmaz. Le grand reportage Agroécologie en Turquie entre tradition et progrès était signé Mélissandre Brie et réalisé par Annie Bro. Et Dali Yaha était à la technique. Au web, Caroline Beneteau, documentation Sophie Cheblin et Patricia Miura. Pour réécouter et partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur l'appli Radio France ou sur franceculture.fr.